Pierre-Jérôme Delage, bonjour.
Bonjour, je suis maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à l'université de Caen-Normandie, rattaché à l'Institut de Molombe.
On parle de donner des droits aux robots, on parle même de statut juridique de personne électronique. Comment peut-on distinguer la personne et la chose et les implications juridiques que ça soulève?
Alors, comment distinguer la personne et la chose? Ça, c'est une question très très ancienne en réalité. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les catégories de personnes et de choses sont des catégories absolument antithétiques. C'est-à-dire que, pour faire assez simple, la catégorie des personnes est une catégorie première et privilégiée, et la catégorie des choses est une catégorie qu'on pourrait dire secondaire et résiduelle. Autrement dit, juridiquement parlant, tout individu, toute entité qui ne va pas être une personne va nécessairement tomber par défaut dans la catégorie des choses. À l'heure actuelle, concernant les robots, la solution elle est très simple. Hein. On ne connaît que deux catégories de personnes, les personnes physiques, c'est-à-dire les êtres humains vivants évidemment, et les personnes morales, sociétés, syndicats, associations, etc. On inclut en plus les personnes morales de droit public, comme par exemple l'État, les collectivités territoriales. Et c'est tout. Donc par défaut, les robots à l'heure actuelle sont des choses. La question que certains commencent à se poser, je suis pas sûr qu'elle soit bonne, mais en tout cas la question qui se pose, c'est donc de savoir si les robots devraient passer du statut de chose ou objet de droit au statut de personne et sujet de droit. On pourrait le soutenir sous un angle particulier qui serait l'intelligence dont seraient dotés les robots, puisque beaucoup affirment que le critère d'attribution de la personnalité juridique aux êtres humains, c'est le critère de la volonté, qui elle-même repose sur un certain nombre de capacités mentales, performances intellectuelles. On peut imaginer que si les robots arrivent à des capacités et performances intellectuelles similaires à celles de l'homme, il faudrait leur donner en bonne logique juridique, si je puis dire, des droits, et donc qu'ils deviennent des personnes.
Il y a aussi la question des implants, plus généralement des appareils électroniques dans le corps humain. Un appareil électronique dans le corps humain, à qui appartient-il? Dans ce cas-là, ça soulève des questions de propriété, j'imagine.
Là, c'est assez simple. À partir du moment où il y a incorporation, il faut considérer que cet élément-là fusionne avec ce tout qu'est le corps humain et donc n'a plus de raison de s'en distinguer. Ce qui veut donc dire que l'implant devient le corps humain, et comme le corps humain, alors selon certains, est la personne, ou selon d'autres, suit le régime de la personne, et bien cet implant suit le régime de la personne, donc il est la personne. Il n'y a plus de raison particulière de l'isoler. Là où on pourrait retrouver un isolement et un changement de statut juridique, c'est si on devait retirer cet implant. Mais tant qu'il est dans le corps, à mon sens, en tout cas, la question est réglée. On ne peut pas dissocier cet implant du corps en général, et donc on ne peut pas le dissocier de la personne.
Et en cas de problème, ou si cet implant est défaillant, la question de la responsabilité incombe vraiment au porteur de cet implant, de ce système invasif?
Alors là, non. Par contre, ce qu'on pourrait imaginer, c'est plutôt faire fonctionner des mécanismes qui seraient assez similaires à ce qu'on connaît en matière de responsabilité médicale, ou peut-être aussi aller chercher du côté de la responsabilité du fait des produits défectueux, ou des choses comme ça. Mais ça, la faute ne sera évidemment pas imputée au porteur de l'implant, elle sera imputée à celui qui l'aura implanté ou à celui qui l'aura fabriqué sur les mécanismes de la responsabilité civile délictuelle.
Et au niveau de la question des données produites, s'il s'agit d'objets connectés au corps humain et question de communication électronique, à qui appartiennent ces données?
Alors ça c'est très compliqué, ça c'est des questions qui dépassent un petit peu mon champ de compétences. À qui appartiennent ces données? Bon, à partir du moment où on parle de données personnelles, on serait tenté de dire qu'elles appartiennent à la personne. Pour autant, on sait très bien qu'il y a tout un tas de systèmes qui se mettent en place où les personnes acceptent que l'on recueille des données les concernant. Et donc on pourrait soutenir que ces données-là appartiennent à celui qui gère ce traitement de données-là. Mais c'est très compliqué. Là, j'ai pas de réponse très précise à vous fournir. J'en suis désolé, ça sort un petit peu des questions que je traite habituellement.
On va aborder le sujet du principe de précaution. Aujourd'hui, on se limite à des procédures d'évaluation des risques, des mesures provisoires et proportionnées aux risques, mais avec les technologies exponentielles. Est-ce que le principe de précaution est toujours opérant?
J'ai déjà une première difficulté, c'est qu'au départ, le principe de précaution, quand on l'a dégagé en philosophie notamment, c'était pour essayer de mesurer l'impact des agissements humains, notamment sur l'environnement. Bon, alors c'est vrai que quand on lit en jeunesse, ça concernait aussi un petit peu les manipulations technologiques, mais je trouve toujours très dangereux de lier le principe de précaution à l'être humain. De mon point de vue, c'est pas quelque chose qu'on peut lui appliquer. Alors après, est-ce que le principe de précaution est toujours opérant? Est-ce qu'il l'est déjà à l'heure actuelle? J'en suis pas sûr, très honnêtement. Donc est-ce que confronté à ces nouvelles évolutions-là, il le serait? Pas davantage à mon sens, parce que, alors je peux me tromper, mais je crois que personne ne comprend vraiment ce que signifie le principe de précaution, moi y compris hein, du reste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'abstenir d'agir? Ça veut dire simplement effectuer certains tests préventifs pour évaluer des risques de dommages? C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup sans jamais en connaître la signification exacte. Et donc, je pense que c'est une des raisons de l'échec un petit peu de ce principe-là, à mon sens, une fois encore.
Au niveau de la législation, on peut se poser la question, la loi a-t-elle du retard sur ces sujets liés au transhumanisme? Comment elle appréhende-t-elle ces questions? Doit-on légiférer?
Est-ce qu'elle a du retard? Oui, elle en a tout le temps, à vrai dire. Dès qu'il est question d'évolution technologique, on constate toujours un petit peu le même phénomène. Les technologies évoluent et le législateur essaye de rattraper un petit peu le temps perdu et la distance comme il le peut. Sur la question transhumaniste, est-ce que la loi a du retard? À bien des égards, oui, encore que quand on consulte notamment le Code civil, les articles 16 et suivants du Code civil, on trouve un certain nombre de choses qui ont été introduites par les lois bioéthiques, qui traitent un petit peu de la protection de l'espèce humaine, de l'impossibilité de porter atteinte à l'intégrité de cette espèce humaine, un certain nombre de choses comme ça dont on ne connaît pas exactement la signification, mais dont on sent bien que le législateur a voulu mettre un certain nombre d'obstacles aux manipulations du vivant sans qu'on arrive exactement à savoir ce qui est visé sous ces intitulés-là et sous ces articles-là. Sur la question transhumaniste plus précisément, dans l'absolu, il n'y a rien ou presque rien. Donc le législateur est en retard, le législateur ferait peut-être bien effectivement de se soucier un petit peu de ces problématiques-là, parce que la grande question qui se pose, c'est de savoir si la loi et plus légèrement le droit doivent accompagner la mouvance ou le projet transhumaniste, ou si au contraire, ils doivent essayer plutôt d'y mettre un frein. À l'heure actuelle, faute de loi précise, le transhumanisme peut se développer, la loi n'y fera pas véritablement d'obstacle, puisque justement, on n'a rien ou presque rien dans la loi.
Et à quelle échelle, justement, mettre ce frein? À un niveau national, à un niveau supranational, par exemple européen, ou même voire international, au niveau de l'ONU, par exemple?
À un niveau international, parce que, bon, on voit très bien que le transhumanisme, alors certes, se développe beaucoup aux États-Unis du côté de la Silicon Valley, mais aussi un petit peu en Chine, aussi également en Europe. Donc idéalement, la réponse, elle doit être internationale. La difficulté de la réponse internationale, c'est d'arriver à trouver un consensus. Et il n'est pas forcément évident qu'au niveau international, on arrive à trouver un consensus. Deuxième problème, c'est que bien souvent, ce qui relève du droit international, pas toujours, mais bien souvent, relève de ce qu'on appelle le soft law, c'est-à-dire le droit mou qui formule des principes, mais qui dans l'absolu n'est pas spécialement contraignant. Donc, à défaut d'une réponse au niveau international, on pourrait peut-être aussi songer, pour ce qui nous concerne, nous, si je puis dire, à une réponse plutôt au niveau du Conseil de l'Europe, par l'adoption de règlements et autres directives qui pourraient poser un certain nombre d'interdits en la matière, qu'ensuite les États pourraient transposer dans leur législation. Une fois encore, il faudra arriver à trouver un relatif consensus, sans oublier qu'il y aurait très certainement un certain nombre de lobbies pour exercer des pressions au niveau européen et pour essayer de faire échec à toutes les entraves qu'on pourrait vouloir poser au projet transhumaniste.
Est-ce que le principe justement de dignité de la personne humaine, sur lequel on se questionne au niveau juridique, quelles sont ses significations et comment pourrait-il nous aider ou comment on pourrait clarifier la notion?
De mon point de vue, le principe de dignité, ou pour le dire comme le Conseil constitutionnel, le principe de sauvegarde et de respect de la dignité humaine, c'est effectivement le principe et la valeur à mobiliser, je crois, face au transhumanisme. Bon, il y a un problème, c'est que les juristes n'aiment pas beaucoup, hélas, la dignité, qu'ils jugent être un concept un peu trop flou. Pourtant, il y a quelque chose de très important avec la dignité. La Cour européenne des droits de l'homme parle plus que de dignité, d'égal dignité des êtres humains. C'est-à-dire que tout être humain, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur, son origine ethnique, quelle que soit son orientation sexuelle, son intelligence, etc., est porteur d'une dignité rigoureusement égale à celle de n'importe quel autre être humain. Et je crois que le meilleur garde-fou à opposer au projet transhumaniste, ce serait de dire que, quelles que soient les améliorations que pourraient subir certains êtres humains grâce à la technologie, quelles que soient les améliorations que ne pourraient pas subir d'autres êtres humains, dans tous les cas, hommes ordinaires, si je puis dire, et hommes augmentés, devraient être réputés rigoureusement égaux en dignité. Ce qui interdirait, idéalement en tout cas, toute forme de discrimination basée sur l'augmentation humaine, ou au contraire l'absence d'augmentation humaine. Donc je crois qu'il faudrait, pour en revenir à ce que vous disiez, effectivement, essayer véritablement de creuser la signification de la dignité, de retrouver un petit peu ses origines. Pourquoi est-ce qu'elle est apparue comme ça sur la scène juridique, la dignité? En réponse à la barbarie nazie, donc en réponse aux pratiques de déshumanisation, de négation de l'égale dignité d'autrui, en réponse à l'eugénisme, etc. Autant de choses qu'on peut craindre un petit peu de voir revenir avec le transhumanisme. Et donc oui, la dignité, c'est le bon garde-fou, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Et il faudrait que donc les juristes acceptent peut-être un petit peu plus l'importance de cette notion-là et arrêtent de la rejeter comme étant purement philosophique.